Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la guerre en Ukraine alors que Volodymyr Zelensky est en Arabie Saoudite pour relancer les discussions avec les États-Unis une semaine après son altercation à la Maison-Blanche avec Donald Trump et J.D. Vance. Le président ukrainien rencontre le prince héritier MBS, Mohamed Ben Salman. Il a affirmé que son pays voulait la paix. Des discussions très attendues ont lieu demain à Jeddah. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui vient d'arriver en Arabie Saoudite, dit juger prometteur la proposition ukrainienne d'un cessez-le-feu partiel. Ces pourparlers ont lieu alors que les Russes poussent leur offensive. Ils revendiquent une avancée dans la région de Koursk et la prise d'ailleurs dans la région ukrainienne de Soumy. Emmanuel Macron reçoit demain les chefs d'état-major militaires des pays européens pour débattre d'un possible déploiement de forces européennes en Ukraine. Le lendemain, Sébastien Lecornu, le ministre français des armées, reçoit ses homologues d'Allemagne, d'Italie, de Pologne ou encore du Royaume-Uni. C'est donc bel et bien une semaine décisive pour l'Ukraine. On va faire un point sur cette rencontre entre Zelensky et MBS. D'abord, quel pourrait être le deal entre Américains et Ukrainiens, entre Marco Rubio et Zelensky? Que peut espérer d'ailleurs Zelensky? Quelle est sa marge de manœuvre? On va revenir aussi sur l'offensive russe dans la région de Koursk et dans la région de Soumy ukrainienne. Pourquoi une telle avancée? Et puis que peut-on attendre finalement de la réunion d'Emmanuel Macron et des chefs d'état-major européens demain sur l'Ukraine? Entre Kiev et Washington, le dialogue est-il possible? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alla Lazareva. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du journal The Ukrainian Week, un journal qui est en anglais, en français également, et en espagnol.
En ukrainien.
Et en ukrainien, bien sûr.
En
ukrainien, en français et en anglais.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous, en tout cas. Ce soir, nous avons Michel Yakovlev avec nous. Bonsoir. Vous êtes général, ancien vice-chef d'état-major du SHAPE et également quartier général des forces de l'OTAN en Europe. C'est ce que ça veut dire, SHAPE, hein, j'imagine.
SHAPE. Supreme Headquarters Allied Powers Europe, commandement suprême des puissances alliées en Europe. Ça remonte à 1944.
Merci d'être là, en tout cas, général, d'avoir de nous donner précisément votre intitulé. Jean-Maurice Ripert est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur de France en Russie et en Chine, auteur de Diplomatie de combat, préfacé par François Hollande, et c'est aux éditions Presse de la Cité. On me dit qu'Olivier Weber n'est pas encore parmi nous, mais on l'attend. Ça se passe en Arabie Saoudite, donc, à Jeddah. Zelensky, donc, il y a eu une entrevue avec MBS, Mohamed Ben Salman. Il est accompagné de son ministre des Affaires étrangères. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est arrivé également en Arabie Saoudite. Des pourparlers, donc, sans Zelensky, mais entre la délégation ukrainienne et la délégation américaine vont démarrer demain en Arabie Saoudite. On va d'abord écouter Donald Trump. C'était hier.
Je pense qu'à terme, et peut-être dans un avenir proche, nous obtiendrons de très bons résultats en Arabie Saoudite. Et je pense que l'Ukraine signera l'accord sur les minerais, mais je veux qu'ils souhaitent la paix dès maintenant. Pour l'instant, ils ne l'ont pas montré autant qu'ils le devraient. Je pense qu'ils ne l'ont pas encore fait, mais ils le feront. Et je pense que cela deviendra évident au cours des 2 ou 3 prochains jours.
Il revient du Golfe.
Oui, il revient du Golfe, il était dans l'avion. Un mot à Lazareva. D'abord, quel est le défi véritablement pour Zelensky? Est-ce que c'est justement de renouer une forme de dialogue avec les Américains?
Disons que oui, il faut renouer le dialogue intergouvernemental entre les deux États, parce que le dialogue entre les Ukrainiennes et les Américains, il est long de 33 ans déjà, donc depuis que l'Ukraine a retrouvé son indépendance. Et aujourd'hui, Trump est le président, un jour il ne sera plus, mais les deux États, j'espère, resteront toujours. Donc il s'agit de restaurer tout cet dialogue institutionnel.
On parle justement, Jean-Maurice Ripert, d'une trêve possible proposée par Zelensky, une sorte de trêve en mer et trêve dans les airs. En tout cas, c'est ce que dit le Financial Times aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait proposer une trêve et en contrepartie demander aux Américains de revenir sur la suspension justement de la livraison d'armes en Ukraine? Est-ce que ça serait ça, une sorte
c'est
possible. Négociation?
Moi, je vais éviter de faire comme Vladimir Poutine et Donald Trump, c'est-à-dire de parler à la place des Ukrainiens. Je crois que dans cette affaire, la seule chose qui compte, c'est de savoir ce que le gouvernement ukrainien veut vraiment. Et donc, on verra ce qui va se passer, en Arabie Saoudite. Moi, ce que j'espère, c'est que Zelensky sera capable de convaincre Marco Rubio que les États-Unis font fausse route. Et que l'Ukraine n'acceptera jamais, que l'Europe n'acceptera jamais qu'on en revienne au temps de la guerre froide où Washington et Moscou décidaient pour les autres. Parce que c'est intéressant que les Américains discutent avec les Ukrainiens. Au nom de qui? Ils viennent parler au nom de Vladimir Poutine ? Oui, ils viennent parler en leur nom personnel. S'il s'agit de négocier sur les terres rares, pourquoi pas ? Les Anglais l'ont fait, les Français souhaitent le faire, les Européens. Si c'est de l'investissement américain pour les Ukrainiens, on s'en réjouira tous, ça créera des emplois et ça leur fournira de l'argent. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est au nom de quoi M. Trump a-t-il décidé que c'était à lui de fixer les termes de la paix entre Vladimir Poutine et Zelensky, c'est-à-dire le départ des Russes, pour dire les choses clairement.
Mais alors, quel est le choix finalement de Zelensky aujourd'hui, Général Yakovlev ?
Pour l'instant, le choix de Zelensky, c'est de dire non, c'est de refuser. Parce que Trump, il nous en fume. Complètement. Il dit « Zelensky n'est pas prêt à négocier ». Zelensky n'est pas prêt à négocier quoi ? Un accord sur les terres rares, ça n'a rien à voir avec le cessez-le-feu. Ça n'a rien à voir. En plus, ça, c'est un faux accord, c'est de la dope totale, c'est une intox de la maison Trump. Jusqu'à présent, Trump a-t-il mis sur la table un accord, un draft, un projet qu'il aurait négocié avec les Russes, Poutine ? Pas du tout.
Il parle de ce fameux deal, enfin de ces négociations autour donc, des terres rares.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec un cessez-le-feu. Et quand il dit, et il faut quand même avoir du culot hein, pour Trump, quand il dit, parce que c'est implicitement une garantie, parce que forcément, ils n'oseront pas s'il y a des Américains.
S'en prendre aux intérêts américains.
Il y a déjà des Américains en Ukraine, et ça ne semble pas avoir gêné les Russes, qui ont ciblé tout ce qu'ils voulaient sans se poser aucune question. Et si j'étais Poutine et que je voulais refaire la guerre et qu'il y avait des Américains devant moi, je dirais à Trump, ton casino avec golf à Kiev, rassure-toi, tu peux continuer à jouer au golf, on fera le tour. Bon, ben voilà, tout va bien pour Trump. Donc, ce n'est pas des garanties, ça.
Oui, ce n'est pas des garanties. Olivier Weber, vous nous avez rejoint, écrivain et grand reporter. Merci d'être avec nous ce soir. Un mot tout de même, parce que Zelensky, on comprend tout de même qu'il ne veut pas se mettre à dos les Américains totalement. Il veut revenir sur cette altercation qui a eu lieu à la Maison-Blanche en venant en Arabie Saoudite en prélude à ces pourparlers entre Américains et Ukrainiens.
Oui, alors, ce n'est pas faire amende honorable. Parce que d'ailleurs, bizarrement, il y a presque un effet boomerang. Zelensky n'a jamais été aussi populaire que maintenant, parce qu'il a osé dire non, il a osé s'opposer à Trump. Il y a une sorte d'union sacrée à l'intérieur de l'Ukraine, du côté des militaires bien sûr, mais aussi du côté des civils. Alors il y a quand même une tactique, et non pas une stratégie, mais une tactique, qui est de laisser la porte ouverte à d'éventuelles négociations, qui ne soient pas, comme on le disait tout à l'heure, une capitulation de la part de l'Ukraine. Ce que veut Trump et ce que veut Poutine, évidemment, ils se rejoignent très très bien là-dessus, il y a une vraie alliance objective, c'est une sorte de capitulation en rase campagne. Alors, l'Ukraine essaie de gagner du temps, essaye de montrer qu'elle est entre guillemets de bonne composition, propose cette fameuse, non pas trêve, ce cessez-le-feu partiel dans les mers et sur mer, dans les airs et sur la mer, je vais y arriver. Donc, ça veut dire qu'en fait, au niveau de la ligne de front terrestre, on continuerait. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a à peu près 3 heures, le chef d'état-major ukrainien, Sirski, a dit que même si, évidemment, les Ukrainiens sont en mauvaise posture dans cette poche de course, vous savez, qui est une occupation du territoire russe par des Ukrainiens, eh bien qu'il allait renforcer, malgré les contre-attaques russes, renforcer la présence de combattants ukrainiens. On pense qu'il y a à peu près 100 000 combattants du côté des Russes, donc des Russes, mais aussi des mercenaires népalais, des mercenaires coréens absolument, mais deuxièmement aussi de l'autre côté 10 000 Ukrainiens. Et donc c'est une manière de faire monter la pression et d'arriver à cette pré-table, cette première table de négociation en position de force.
Alla Lazareva, Zelensky, donc on parle d'un cessez-le-feu partiel qui concernerait, d'après le Financial Times, hein, que je cite, des drones à longue portée et des frappes de missiles ainsi que des combats en mer Noire. C'est ce que vous avez, vos informations vous disent aussi ?
Absolument, c'est la même chose. Donc c'est pour essayer d'arriver au début au cessez-le-feu pour voir est-ce qu'on peut aller négocier plus loin. Mais la question est-ce que la Russie va faire la même chose ? Parce que nous, si on arrête, il faut que eux, ils suivent. Autrement, on les laisse nous massacrer gratuitement. Là, ça n'ira pas, quoi.
Est-ce qu'on peut en profiter, pour rappeler que tous les jours, les Russes tuent des Ukrainiens.
Oui, on va revenir d'ailleurs sur la situation.
Voilà, non, mais c'est important. Oui. Si Zelensky demande ça, c'est parce que tous les jours, les Russes tuent. Il faut quand même le rappeler, l'expliquer, le répéter inlassablement.
Mais quelle est la marge de manœuvre de Zelensky, justement, sur de proposer une trêve, enfin une trêve, un cessez-le-feu partiel sur les drones à longue portée, sur les frappes de missiles et sur les combats en mer Noire ? Qu'est-ce que ça signifie, en fait ?
Non, c'est plutôt une invitation à ce que la Russie... parce que le vrai cessez-le-feu, c'est dans l'autre sens, comme vous le disiez très bien. La vraie marge de manœuvre de Zelensky, c'est que Trump est convaincu que l'Amérique tient contrôle l'Ukraine. Toutes les cartes sont dans ma main. Donc c'est switch on, switch off. Si j'arrête, t'es mort. Eh bien, maintenant qu'il a arrêté, le cave se rebiffe et ça continue. Et plus ça dure, plus Zelensky est en mesure de dire à Trump, tu vois, je continue en fait, t'as arrêté, mais t'as plus d'arguments contre moi. Il te reste quoi comme carte? Tu les as toutes
jetées. Mais à quel prix aussi?
Et à quel prix? Et pour Poutine, c'est de se dire, au bout d'un mois, le sketch continue, mais je croyais qu'ils allaient arrêter. Donc c'est d'induire le doute chez Trump. Ça, c'est la vraie carte de Zelensky.
On va écouter Peskov, hein, d'ailleurs, le porte-parole du Kremlin qui a réagi.
Ce que nous attendons n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que les États-Unis attendent. Nous avons entendu à plusieurs reprises des déclarations à différents niveaux, selon lesquelles les États-Unis attendent des Ukrainiens qu'ils fassent preuve d'une volonté de paix. C'est probablement ce que tout le monde attend. Les membres du régime du président ukrainien Volodymyr Zelensky veulent-ils vraiment la paix ou non? C'est bien sûr très important. Et il faut le déterminer.
Jean-Maurice Ripper.
Mais pour rebondir sur ce que disait le général, la situation n'est pas facile pour Donald Trump. Hein, parce que s'il n'y arrive pas à tordre le bras de Zelensky et du peuple ukrainien, c'est aussi sa crédibilité vis-à-vis de Vladimir Poutine qui va tomber. Parce que jouer les matamores vis-à-vis de tous les grands de ce monde, si à un moment on ne délivre pas quelque chose, c'est quand même un petit peu embêtant.
Et là, les Russes disent, passez un accord avec les Américains, et ensuite
finalement, ça ne nous concerne pas, nous sommes agressés par les Ukrainiens, c'est aux alliés des Ukrainiens et des Américains d'obtenir la paix des Ukrainiens. On est chez les fous. Il faut quand même dire les choses clairement. Il ne faut pas être dupe de cette façon perpétuelle qu'ont les Russes de retourner la charge de la preuve, et avec maintenant le soutien de Donald Trump. Il ne faut pas prendre au premier degré tout ce que dit Donald Trump. Ça, c'est quand même aussi un des problèmes. Juste par rapport à ce que vous disiez, mon général, je pense que vous avez raison. Tout dépendra aussi pour que l'Ukraine puisse dire aux États-Unis dans un mois ou deux, nous avons tenu, que nous les aidions à tenir. Et là, l'Europe est en face de ses responsabilités. C'est quand même aussi le challenge pour Zelensky.
Olivier Weber, le fait que la Russie, on vient de l'entendre avec Peskov, le porte-parole du Kremlin, finalement dise passer un accord avec Washington et nous, on verra ensuite en fait. Hein.
Oui, absolument. Mais bon, Zelensky essaye de gagner du temps, évidemment. On voit bien que dans cette prénégociation, Trump a battu toutes ses cartes. Il avait les cartes dans les mains et c'est un très mauvais joueur de poker, on va dire, en tout cas un très mauvais négociateur, même s'il a dit à Zelensky, c'est moi qui ai les cartes entre les mains. Il a tout donné à Trump, à Poutine, on veut faire la paix tout de suite, on va arrêter l'aide militaire américaine, on va geler le partage de renseignements, on refuse la présence, dans un premier temps, des Ukrainiens de table de négociation, on refuse la présence des forces éventuelles de maintien de la paix européenne. Et là, ce que veut faire Zelensky, c'est grosso modo aussi faire revenir les États-Unis sur ce gel de l'aide américaine et puis deuxièmement sur cet arrêt du partage de renseignements. Donc c'est un jeu un peu tactique, on va dire, c'est un jeu politique aussi. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens veulent vraiment négocier, ils ne veulent surtout pas évidemment que la guerre s'arrête dans l'état actuel. En tout cas, la poche de course, que plus que jamais ça devient un enjeu de négociation, c'est pour ça évidemment que les Russes mettent le paquet littéralement, à la fois sur la poche de Koursk avec des opérations très coûteuses en hommes, mais aussi aux alentours du côté ukrainien avec les bombardements des villes comme Soumy.
Voilà, vous le mentionnez, ces nouveaux villages de la région de Koursk donc, qui ont été repris par les Russes, en tout cas c'est ce qu'a annoncé le Kremlin hier, face à l'armée ukrainienne. Ils ont aussi revendiqué la prise d'un village dans la région ukrainienne de Soumy. On fait un point en image avec Jean Barrère.
Un revers militaire pour l'Ukraine. Les forces spéciales russes revendiquent la prise de 4 villages dans la région de Koursk, aux mains de Kiev depuis l'année dernière. Moscou mène une offensive de grande ampleur dans toutes les directions de la région de Koursk, selon un commandant russe. En août, l'Ukraine avait lancé une incursion dans cette région frontalière. En quelques jours, les soldats ukrainiens ont conquis plus de 1000 km² de territoire et capturé des centaines de prisonniers de guerre russes. Mais depuis l'incursion d'août, l'Ukraine a du mal à conserver son territoire et ne contrôlait plus que 500 km² mi-février. Son armée affirme avoir repoussé 44 attaques russes ces dernières heures. Kiev espérait utiliser ses territoires comme monnaie d'échange dans les futurs pourparlers de paix, mais ses avancées russes affaiblissent sa position à un moment crucial de la guerre. La Russie s'attaque aussi à la région ukrainienne près de Soumy et revendique la prise d'un autre village. Les forces russes s'étaient retirées de cette zone en 2022, mais semblent y revenir, galvanisées par le désengagement américain. Le président Zelensky a déploré ces nouvelles offensives russes.
La Russie prouve littéralement chaque jour par sa cruauté que rien n'a changé pour elle à Moscou. Ils ne réfléchissent pas à la manière de mettre fin à la guerre, mais à la manière de détruire et de capturer davantage tant que le monde leur permettra de mener cette guerre.
Une délégation de hauts responsables ukrainiens se rendra en Arabie Saoudite mardi pour rencontrer des négociateurs américains. L'Ukraine n'a pas détaillé le programme des discussions, mais pourrait être forcée à des concessions pour récupérer le soutien des États-Unis.
Voilà, elle y a donc bien sûr cette délégation. Général Yakovlev, comment expliquer donc ces avancées russes? Est-ce que c'est lié à la fin de la coopération avec le renseignement américain?
Pas forcément, parce que les Russes gagnaient du terrain. Voilà, ils mettent la pression et ils gagnent quelques kilomètres.
Mesurer l'impact justement de la fin de cette coopération du renseignement américain avec les Ukrainiens.
Alors, sur ces avancées-là, je ne crois pas. Là, on est vraiment dans du combat à courte portée. Donc, le renseignement du front, si vous voulez, les Ukrainiens le génèrent eux-mêmes. C'est dans la profondeur qu'ils ont un problème. Et là, ce sont des assauts et tout. Mais quand on dit à un Américain comme Trump, en 2024, les Russes ont gagné en Ukraine l'équivalent de l'État du Rhode Island. Le Rhode Island, c'est rien pour les Américains. Comment ? Tout ça pour ça ? En fait, l'Ukraine tient. Alors, elle perd quelques kilomètres carrés ici ou là, mais elle tient. Et c'est le fait de tenir et de continuer à tenir qui, un jour, forcera les Russes à changer de posture.
Donc là, vous ne faites pas de lien avec, effectivement, la fin...
Non, 3 kilomètres carrés, un village et tout, non.
...de l'aide américaine et la fin de la coopération... Non plus, vous non plus.
Non, et les renseignements britanniques disent au contraire que les Ukrainiens ont stabilisé le front au niveau de Pokrovsk. Donc là, il y a aussi mes collègues qui combattent, donc les journalistes qui sont devenus militaires, qui confirment qu'il y a les petites avancées aussi dans les
régions de Donbass. Comment vous expliquez tout de même ce revers, cette avancée russe là, ce week-end?
C'est parce qu'il y a aussi la guerre des communications. Il faut aussi dire que quand ils communiquent, ils sont repris multiples fois et la communication, par exemple, ukrainienne, elle est beaucoup moins relayée. Donc il y a aussi ça. Mais en vrai, je rejoins plutôt le général Yakovlev. Il y a les petites avancées par-ci, par-là. De notre côté, on recule un peu, ils avancent un peu, mais il n'y a pas d'avancées ou des reculements majeurs. Donc, on tient le front. Le front est plus ou moins stable.
Parce que Kursk pourrait être justement une sorte de levier pour Zelensky dans les négociations, Jean-Maurice Ripert.
Juste un point. On n'est pas encore en négociation. Olivier Weber a dit très justement, on est en pré-négociation. Les diplomates le savent. Pour entrer en négociation, il faut des semaines, voire des mois de discussion pour savoir sur quoi vont porter les négociations. On n'en est pas là du tout, comme on l'a compris, enfin ce que vous disiez, mon général. Ils sont là-bas pour essayer d'obtenir un accord sur les terres rares. Moi, je voudrais quand même souligner...
Sur les terres rares, donc vous dites quand même qu'il doit y avoir un deal autour des terres rares.
Mais un deal économique sur les terres rares, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est aussi l'intérêt de l'Ukraine de vendre ces terres rares si le prix est bon. Je veux dire, là-dessus, c'est pas une grande victoire diplomatique de M. Trump. Pardon, un point quand même. Et je pense que le général, il faut... Moi, j'ai entendu hier quand même plusieurs militaires expliquer que l'interruption du renseignement n'a pas forcément d'impact demain matin, mais qu'à terme, c'est l'ensemble de l'appareil anti-aérien ukrainien qui est en péril. Oui. Outre le fait que, vous le savez, les Américains peuvent tourner sur off l'autorisation de voler des F-35 et notamment de ceux qui sont prêtés à l'Ukraine ou donnés à l'Ukraine ou vendus à l'Ukraine par les pays de l'OTAN et notamment par la Pologne. C'est quand même ça pour le coup, et pardon d'en revenir encore aux civils, c'est l'arme absolue contre la population ukrainienne. Hein. Ça n'est pas, Poutine ne mène pas une guerre contre l'armée ukrainienne, il mène une guerre contre la population ukrainienne. Il veut la disparition de l'Ukraine.
Je suis parfaitement d'accord.
Vous êtes parfaitement d'accord. Et vous aussi, j'imagine, Olivier Weber, est-ce que tout de même pour réagir sur la suspension de l'aide américaine et la suspension donc de la coopération du renseignement américain avec les Ukrainiens, donc ça tout de même, on sent que Zelensky, il aimerait bien tout de même que les Américains reviennent sur ces décisions.
Oui, absolument, parce que on pourrait comparer. L'Ukraine actuellement a un oiseau dont on aurait bandé les yeux. Alors, ce bandeau, on peut l'enlever, on peut lever une partie.
Olivier, Weber, attendez, on vous a perdu. Je crois qu'on va vous retrouver. Oui. Allez-y. Donc, un oiseau avec les yeux bandés, vous disiez, en parlant de l'Ukraine.
Oui, absolument. Et ce bandeau peut être enlevé partiellement, mais ça va prendre du temps. Et quand même, ce qui est important, c'était l'aide au ciblage. Après, on est effectivement dans un début du tour de table. Et ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il se passe sur le terrain, les Ukrainiens résistent et résisteront. Ils m'ont même dit dans plusieurs villes, à Kiev, à Dnipro et à Odessa, mais on les attend même dans nos grandes villes. Si par malheur les Russes arrivaient dans les faubourgs de ces grandes villes, on est là pour combattre, comme on l'a fait à Kiev au début de la guerre, en février-mars 2022, dans une guérilla de type urbain, où là on est assez bon. Et donc il y a vraiment cette volonté de la part des Ukrainiens de tenir. Et puis il y a un troisième élément... ce sont les sanctions économiques qui commencent à porter leurs fruits au bout de 3 ans en Russie, avec par exemple un taux directeur de la Banque centrale russe à 21%, ce qui est énorme. Et Poutine sait très bien que s'il attend trop longtemps, l'an prochain, 2026, il risque d'avoir des faillites en cascade de la part des entreprises russes.
La Lazareva, et d'ailleurs l'Ukraine qui annonce qu'elle va renforcer ses troupes qui combattent justement dans la région russe de Koursk, hein, vous le disiez Olivier Weber, ça c'est une annonce du commandant de l'armée ukrainienne, donc c'est stratégique pour les Ukrainiens tout de même cette région de Koursk donc, qui se trouve en Russie.
Mais c'est une pièce d'échange pour les négociations, donc c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que c'était comme ça que l'opération était conçue en fait, et maintenant effectivement il y a nos gens là-bas qu'il ne faut pas perdre. Déjà, évidemment que c'est une certaine importance, mais tout le front est important. Il ne faut pas non plus tout résumer au Koursk.
Parce que le terrain, évidemment, guide tout de même, a priori, des négociations à venir.
Oui, oui.
Elle devrait.
Mais il faut... Voilà, le front est en gros gelé. La pression russe continue, donc elle grignote. Mais voilà, ça, l'effondrement, il n'est pas là. Il n'est pas en train de venir. Et donc, Trump, qui croyait que l'Ukraine s'effondrerait le lendemain de la coupure de courant, découvre qu'en fait, la bête se bat encore et se battra encore un certain temps. Et Trump doit comprendre plus progressivement qu'en fait, il n'a pas toutes les cartes en main. Et puis, il vient de les jeter, en plus.
Il les a jetées, donc il n'y a plus de marge de manœuvre, en fait.
Surtout, je pense qu'il joue aussi sa crédibilité auprès de sa propre population, parce que les démocrates, pour l'instant, ils sont un peu sous le choc et ils n'agissent pas trop, mais ils vont quand même agir, je pense. Les gens qui ont voté contre Trump, ils obtiennent les cartes en main avec son comportement et avec ses démarches vis-à-vis de l'Ukraine qui ne sont pas extrêmement élégantes.
Mais Jean-Maurice Ripper, allez-y,
vous voulez-vous. Je voulais juste dire, je pense qu'il faut aussi tenir compte d'un facteur secondaire, entre guillemets, qui est qu'au sein de l'OTAN, et parmi les alliés des démocraties libérales, appelons-les comme ça, il n'y a pas que les Européens. Moi, j'ai été frappé de voir que la déclaration du Premier ministre australien, qui a dit « mais nous, on veut être là ». Nous, on veut être là. On est prêt à envoyer des troupes sur le terrain, s'il le faut, dans le cadre d'une opération avec les Européens. Et le nouveau Premier ministre libéral du Canada, qui en gros a envoyé balader, passez-moi l'expression, le président Trump, a dit « je serai là ». Donc, si vous voulez, il y a une organisation qui est en train de se faire, où il y aura tous les alliés de l'Ukraine, sauf les États-Unis. Et donc là, je ne suis pas sûr. Il faudrait voir aussi comment vont réagir les militaires américains, parce que c'est quand même important. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de militaires américains qui souhaitent la disparition de l'OTAN. Donc, c'est plus compliqué que ça. Mais il faut, là aussi, un peu de temps. Et donc, c'est vrai que je pense que Zelensky a raison de jouer le temps.
Le temps,
contrairement à ce que dit Trump, peut jouer en la faveur de Zelensky. Peut jouer.
Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces 2 journées en Arabie Saoudite ?
De mon point de vue, pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Le fait de parler, c'est-à-dire que Zelensky, ça a été dit tout à l'heure, prouve sa bonne foi en disant « mais moi je suis tout à fait prêt à parler ». Le problème, ce n'est pas de parler pour un diplomate, c'est savoir ce qu'on dit. C'est normal de parler, moi je n'ai pas de problème avec ça. La question, c'est de savoir de quoi on parle.
Un mot sur Starlink.
Et qu'est-ce qu'il en reste après ?
Et qu'est-ce qu'il en reste après, bien sûr.
Olivier Weber, un mot sur Starlink, puisque Marco Rubio a affirmé sur X aujourd'hui que personne n'avait menacé de couper Starlink aux Ukrainiens. Et dites merci d'ailleurs, il écrit sur X, car sans Starlink, l'Ukraine aurait perdu la guerre depuis longtemps et les Russes seraient à la frontière polonaise en ce moment. Ça, c'est ce qu'a écrit Marco Rubio sur X. Et Musk qui a affirmé qu'il ne fermerait jamais ses terminaux. Donc, il y a tout un débat autour de Starlink. C'est fondamental pour les Ukrainiens, Starlink ?
Oui, c'est fondamental, même s'il y a des options de remplacement, y compris avec les Européens. Mais vous savez, ce dont ont peur, on va dire, les conseillers de Trump et Musk au premier chef, c'est que certains pays européens coupent aussi les ponts avec Starlink. Même Meloni, d'ailleurs, c'était assez surprenant. La première ministre italienne a parlé de couper les ponts avec Starlink et puis d'autres pays comme la Pologne également. Donc Starlink reste une très, très bonne vitrine, évidemment, pour Musk et toutes ces entreprises autour de lui. Donc voilà, il n'empêche que les Ukrainiens ont prévu des plans B. Le problème, c'est que ça ne peut pas se faire en 24 heures, évidemment. Et là encore, il y a urgence pour les Européens de fournir une aide militaire, une aide technique, une aide logistique et une aide financière. Moi, j'ai vu donc en Ukraine, quand même, une partie de ces hôpitaux qui ont été détruits. Il y a 1300 structures de santé, c'est-à-dire des hôpitaux, des dispensaires, des cliniques qui ont été détruits par les Russes. Évidemment, c'est sciemment, c'est tout à fait délibéré. Et donc, il y a même des écoles souterraines qui étaient en cours de construction donc pour des enfants qui ont été mises à l'arrêt du jour au lendemain quand, évidemment, on a décidé du côté de USAID, en fait, de l'administration de Trump, d'arrêter donc l'aide américaine via cet organisme qui s'appelle USAID. Au total, il y a eu 30 milliards de dollars qui sont passés sur les 3 ans à travers USAID pour l'Ukraine. Donc, il y a quand même tout un réaménagement logistique qui se prépare, qui est en cours, mais évidemment, ça prend du temps. Et là, pour répondre à votre question de tout à l'heure, l'intérêt aussi de Zelensky d'aller à Riyad, d'aller en Arabie Saoudite, c'est de mettre un pied dans la porte, de dire je suis là, je suis de bonne volonté, même si évidemment il cherche à gagner du temps, sachant aussi que du côté de la Russie, certes il y a un petit grignotage, mais c'est extrêmement coûteux en hommes, il n'est pas certain que les pertes soient compensées, les pertes chaque mois en blessés et en morts du côté russe soient compensées par un renouvellement ou un recrutement, même s'il s'agit d'un recrutement tous azimuts du côté de la Russie.
Zareva, ça pose question quand même le fait que ça soit en Arabie Saoudite avec Mohamed Ben Salman, ces premières négociations, cette première présence de Zelensky. Et d'ailleurs, on se souvient que Mohamed Ben Salman l'avait invité au moment de la réunion de la Ligue arabe, me semble-t-il.
Mais ce n'est pas la première fois. Hein. Ils sont déjà proposés pour négocier, par exemple, les retours des prisonniers à plusieurs reprises. Donc,
les Saoudiens ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est de temps en temps, ils interviennent et... c'est pas étonnant pour nous.
Est-ce que ça isole pas un peu les Européens ?
Il est probable aussi que les Américains veulent parler de Gaza et de la suite de ce qui va se passer parallèlement aux discussions qui ont repris à Doha aujourd'hui, j'ai bien compris, entre les Israéliens, avec les Israéliens et le Hamas.
Vous feriez un lien entre les deux. Est-ce que ça
isole ? Non, je dis qu'ils saisiront l'occasion. Je pense pas que Marco Rubio a fait le trajet, alors qu'il ne verra pas le président Zelensky, uniquement pour parler de terres rares. J'ai un petit doute, donc ils vont parler d'autre chose.
Surtout qu'il va ensuite à Doha, il me semble. Oui. Mais est-ce que ça n'isole pas un peu plus les Européens, monsieur l'ambassadeur, en Arabie Saoudite ?
Mais attendez, moi je n'ai jamais fait partie des gens qui pensent que nous sommes des petits pays isolés. L'Europe est une puissance, elle est en construction, elle est en gestation. Nous étions, avant la guerre en tout cas, le premier partenaire commercial des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Nous ne sommes pas de petits pays. Il faut simplement que les Européens, nous avons donné à l'Ukraine, tout compris, beaucoup plus que les États-Unis. Mm-hmm. Nous donnons beaucoup plus que les États-Unis, là encore, contrairement aux mensonges de M. Trump, qui suit son patron, M. Poutine. Nous donnons beaucoup plus pour l'aide au développement, pour l'aide humanitaire, pour les investissements dans les pays du Sud. Donc, il faut cesser de voir l'Europe comme une petite chose.
Non, mais c'est l'inverse. Là, vous avez des négociations entre Ukrainiens et Américains en Arabie Saoudite.
Il n'y aura pas de discussion de paix en Ukraine, je parle sous votre contrôle, sous le contrôle du général, si on ne parle pas de garantie de sécurité. Mm-hmm. On n'y aura jamais de garantie de sécurité en Ukraine sans les Européens. D'abord parce que les Ukrainiens le demanderont, parce que la sécurité en Europe, c'est l'affaire des Européens. Mmh. Sauf si les Européens acceptent que ce soit M. Poutine et M. Obama, Trump qui décident à leur place, ce que je ne crois pas.
Mais vous ne répondez pas sur la question de l'Arabie Saoudite.
D'où l'importance de la présence des Anglais, c'est absolument fondamental pour nous, pardon.
Sur justement l'Arabie Saoudite, c'était ça en fait ma question. Est-ce que c'est quand même, on voit des pourparlers entre Américains et Ukrainiens, en Arabie Saoudite. Ça pose quand même question. Il pourrait être...
Des discussions, mais pourquoi pas. Demain, vous l'avez dit vous-même, il y aura une réunion d'état-major. Le président Zelensky était à Paris il y a 8-10 jours pour un sommet. Ensuite, il est allé à Londres. Ça tourne, vous savez, les discussions. Pourquoi pas en Arabie Saoudite ? Je pense aussi que tout le monde commence à réfléchir à la reconstruction de l'Ukraine. Si l'Arabie Saoudite peut donner un petit coup de main, ça ne gênera pas les Européens. Enfin, à mon avis.
Zelensky, en tout cas, compte hein, sur l'armement européen et sur sa production propre de drones. Ça serait ça aussi sur lequel il pourrait parier,
Zelensky. Oui. Alors, ce n'est pas en Arabie Saoudite qu'il va y travailler, l'industrie, ce qu'a réussi l'industrie ukrainienne, c'est inégalé dans l'histoire. On n'a jamais vu ça. Cette année, ils produisent 4 millions de drones. Ils produisent tellement de drones que... Ils aimeraient bien avoir plus d'obus, mais en réalité, ils les ont compensés à 70%. Donc, l'industrie, par exemple, l'industrie de la défense ukrainienne va fournir en 2025 50% du matériel et des munitions dont a besoin le pays. Et nous, les Européens, à peu près 30%. Donc, en fait, la part de l'Amérique pour les missiles solaires, c'est critique, c'est crucial. Ça, on est d'accord. Pour les missiles à longue portée dans une certaine mesure. Mais donc pour le reste, les Ukrainiens apprennent à se passer d'eux. Ça leur pique les yeux. Ils prennent beaucoup plus de morts. Donc chaque mort ukrainien aujourd'hui, les civils, hein, les hôpitaux, etc., on peut dire merci à M. Trump. À titre personnel, merci M. Trump. Ce n'est pas la politique des États-Unis, c'est Trump.
Absolument.
Et mes amis américains, on en parlait tout à l'heure, les militaires américains, ils sont effondrés. Tous ceux avec qui j'ai discuté, quand même des hauts gradés maintenant à la retraite, il m'a dit, il y en a un qui dit « I've never been so embarrassed ». Je n'ai jamais été aussi honteux. Et c'est un mot très fort. Parce qu'eux, ils ont le sens de la parole donnée, les militaires américains. Ils ont des tas de défauts, on peut leur trouver des tas de défauts. Mais il y a quand même une qualité qu'ils ont, c'est le sens de la parole donnée. Et ça, que l'Amérique fasse ça, ça, quel que soit leur vote hein, au moment des élections, Ça leur reste dans la gorge.
Olivier Weber, vous aussi, vous avez cette impression, vous qui étiez en Ukraine encore tout récemment, qu'ils commencent à compter de plus en plus sur leur propre production de drones.
Oui, absolument. Il y a une montée en puissance de ces capacités de production militaire à la part des Ukrainiens, avec beaucoup d'inventivité, y compris sur les drones, comme le disait le général à l'instant, avec des petits commandos en quad. Vous savez, ces motos à 4 roues qui partent dans les forêts, ils sont deux. Il y a un conducteur et puis un lanceur de drones derrière. Ils s'arrêtent, ils écartent les arbres, quelquefois ils les abattent rapidement. Ils font partir les drones, ils repartent en arrière. Et donc, il y a beaucoup d'imagination, d'inventivité, une production qui reprend la cadence. Alors, le problème, c'est comment compenser cet arrêt brutal pour l'instant, ou futurement brutal, de l'aide militaire américaine, parce qu'il y a encore des stocks qui sont en cours d'acheminement, y compris à la frontière polonaise. Mais voilà, donc c'est une vraie question. Alors après, il y a, pour répondre à votre question tout à l'heure, pourquoi l'Arabie Saoudite ? C'est pas inintéressant. Il y a une sorte d'émulation, voire de compétition entre certains pays émergents, comme la Turquie, par exemple, donc Arabie Saoudite de MBS, Ben Salman et la Turquie d'Erdogan. Vous savez, Erdogan avait par exemple négocié, en présence de Zelensky d'ailleurs, la reddition, enfin le transfert et l'échange de prisonniers, surtout les prisonniers ukrainiens de Mariupol contre les officiers et des soldats russes. Erdogan, le président de la Turquie, avait également favoriser la négociation pour l'ouverture d'un corridor maritime pour rallier le Bosphore, donc la Méditerranée, à Odessa, aller-retour, même si les navires se font encore bombarder. Donc c'est pas inintéressant. Et après, c'est une place plus que symbolique que Riyad et que l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que c'était même une option qu'envisageaient les Ukrainiens, c'est qu'éventuellement, les Américains, à un moment, puisqu'il y a toujours cette carte économique qui serait peut-être la seule entre les mains de Trump, que les Américains et les pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, augmentent les capacités de production du pétrole de manière à les faire baisser. Et là, je peux vous dire que Poutine serait assez mal, vu qu'il échange et qu'une bonne partie de ses échanges extérieurs repose sur la vente de pétrole, à l'Inde en particulier, et que sur la flotte, vous savez, des 200 vaisseaux fantômes, donc qui circulent de manière un peu clandestine de par le monde, 68, donc à peu près un tiers, ont été saisis, y compris et surtout en Scandinavie. Donc c'est pas inintéressant et ça peut contribuer aussi à neutraliser, on va dire, ce rapport de force qui est en faveur, bien sûr, de Trump et du Poutine pour l'instant.
Justement, ce rapport de force en faveur de Trump et de Poutine, quel est le sentiment des Ukrainiens aujourd'hui face justement à ces gesticulations entre Poutine et Trump ?
Disons qu'au début, quand on a vu que les Américains ont passé des côtés de notre ennemi, on était choqués, étonnés, stupéfaits, mais c'est passé vite parce qu'on a tellement appris en 3 ans de guerre totale que franchement, l'ambiance générale, c'est que bon, d'accord, il dit beaucoup de choses, il ne faut pas trop l'écouter, on a notre chose à faire. Voilà une cagnotte, il faut acheter un drone. Voilà une cagnotte, il faut acheter ça. Donc les gens sont plutôt focalisés sur l'idée, il faut tenir, il faut gagner, il ne faut pas se laisser faire. Et sans Américains. Vous voyez qu'il y a quelque temps, pendant 5 mois, le Congrès bloquait donc l'aide pour l'Ukraine et on continuait de combattre. Oui. Là, on va continuer aussi. J'ai parlé avec une amie très proche qui a mon âge, donc qui n'est pas très jeune, et qui a dit, écoute, si jamais il avance jusqu'à dernière arme, on va combattre. Et c'est l'ambiance générale. Donc,
il y a une fatigue des Ukrainiens tout de même face à cette guerre.
Disons qu'il y a un certain épuisement, oui, mais on sait qu'on n'a pas le droit à commencer à s'écouter et se dire que ah, est-ce que je suis fatigué. On se dit que bon, voilà, là il faut se mobiliser et il ne faut pas se laisser faire. C'est surtout ça le message.
Un mot, Jean-Maurice Ripert, sur justement la réunion d'Emmanuel Macron qui réunit les chefs d'état-major demain sur l'Ukraine. Vous parliez justement d'une éventuelle force européenne de garantie de sécurité en cas de cessez-le-feu en Ukraine. C'est une bonne idée pour vous ?
Bien sûr. De toute façon, vous comprenez bien que tout ce qui se passe actuellement sur l'Europe de la défense vient de loin. Ça n'a pas été improvisé dans les 15 derniers jours parce que Trump est arrivé au pouvoir. Donc c'est une accélération d'un processus que la France a souhaité depuis la signature du communiqué de Saint-Malo en 1998, et dont moi, personnellement, je me réjouis de voir l'achèvement. Mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Et encore une fois, il faut bien expliquer, je pense qu'il ne s'agit pas, ça, sous le contrôle du général, bien sûr, il ne s'agit pas de créer une armée européenne. Il s'agit de débloquer les moyens, de permettre à chaque pays d'augmenter très significativement, en rapidité et en quantité, la fourniture d'armement à l'Ukraine. Donc, Et de se réarmer, comme on dit maintenant, en même temps. Donc ça va prendre du temps, mais moins que si on cherchait à créer un état-major intégré. Que ça. Par ailleurs, il faut quand même aussi rappeler que les Européens, enfin c'est, le monde est vaste, moi j'ai travaillé pour les Nations Unies, les Européens ont l'habitude quand même d'intervenir à l'étranger. On dit toujours la France, et on a raison de le dire.
Contrairement à ce qu'a pu dire Jenny Vance, par exemple.
Et le Royaume-Uni, mais sur beaucoup de fronts, j'ai vu des Danois, des Belges, des Suédois, et beaucoup des Irlandais, qui en général d'ailleurs aimaient bien des Italiens se battre avec les Français. Donc il y a déjà une entente, il y a déjà des habitudes qui ont été prises. Je pense qu'un des problèmes cruciaux qu'il y a, c'est que si on sait bien fabriquer des tanks et des avions, on ne peut pas remplacer un F-35 par un Rafale en 24 heures. Ça, c'est quand même un problème. Les missiles, on a des missiles, mais on n'a pas de missiles à longue portée. Et puis ce problème de renseignement. Que vont faire les Anglais ? J'imagine que les Anglais ne peuvent pas partager les renseignements qu'ils vont continuer à recevoir des Américains, ce serait trahir leur parole, ils ne le feront pas. Mais j'ai trouvé quand même les interventions du Premier ministre britannique extrêmement fortes, quand même. L'Ukraine a des amis en Europe. L'Europe est l'ami de l'Ukraine. Je crois qu'il faut vraiment le marteler.
Le ministre des Armées, hein, Sébastien Lecornu, qui évoque une enveloppe de 195 millions d'euros d'intérêts sur les avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine sur le plan militaire. Général, c'est dans la tribune du dimanche. Donc, les utiliser, ces avoirs russes gelés, c'est une bonne idée ?
Oui, oui, je pense, oui.
En tout cas, les intérêts, hein, pour l'instant.
Oui, pour l'instant, c'est les intérêts, parce que c'est légal. Il y a une question, c'est si on s'empare de l'argent, c'est notre crédibilité en tant que banque. Qui est en cause, donc voilà. Mais j'ai un magazine que j'aime beaucoup, la The Economist, il y a 3 ans, ils avaient fait tout un article en disant voilà pourquoi c'est une fausse bonne idée de s'emparer des avoirs russes. Et ils ont changé de ligne il y a un mois. Ils ont dit maintenant, 3 ans après, on a assez de justification pour le faire. Donc...
Pour l'instant, la France freine. Hein. On utilise les intérêts.
Oui, parce que la loi, l'esprit des lois, c'est important. Oui, c'est la crédibilité à long terme aussi. Oui. On ne peut pas se permettre de mettre la main dans la caisse comme ça.
Et puis, pardon, si je peux me permettre, il y a quand même un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est le risque de crise économique et financière mondiale que risque de provoquer la politique commerciale du président Trump. Donc les États européens, même ceux qui veulent aider l'Ukraine, ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi sur le plan budgétaire. Donc moi, je pense que ça reste comme une option possible, in fine, s'il n'y en a pas d'autre. Il ne faut pas sous-estimer le plan de 800 milliards de Mme von der Leyen. Hein. Il faut regarder le détail.
Il faut
déjà
d'abord regarder le détail, d'abord utiliser donc
150 milliards empruntés par l'Union européenne en son nom propre et qui sera distribué aux industries d'armement européennes au bénéfice de l'armée ukrainienne. C'est pas rien, 150 milliards quand même, il ne faut pas faire, on jongle avec les chiffres comme si ça ne voulait rien dire. Un emprunt national, vous savez que ça marche en France. Tous les emprunts nationaux, y compris liés à la guerre. Donc il y a aussi beaucoup d'autres sujets. Mais les intérêts, oui, ça me paraît clair. Ils ont été générés par des banques françaises, après tout.
Les intérêts, 195 millions d'euros d'intérêts. Olivier Weber, votre réaction justement, ces intérêts sur les avoirs russes gelés qui vont donc permettre de livrer, je cite hein, le ministre des Armées français, des obus de 155 mm ainsi que des bombes planantes qui arment les Mirage 2000 ukrainiens. Voilà à quoi vont servir ces intérêts des avoirs gelés russes.
Oui, sur l'option, elle est tout à fait légitime que de saisir les intérêts de ces avoirs russes, mais d'autres pays européens devraient emboîter le pas, je pense surtout au Royaume-Uni, c'est très important. Alors après, est-ce que c'est conforme à la loi? Il y a aussi le droit international, là, il s'agit aussi de qualifier évidemment le pays agresseur pour tous les actes commis délibérément sur les populations civiles et sur les enfants. Vous savez, par exemple, sur le bureau du procureur, qui est un homme maintenant depuis deux ans, parce que la procureure a été évincée en Ukraine, il y a 15 000 dossiers de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Sur ces 15 000 dossiers, 11 000 concernent donc des femmes et des enfants ukrainiens. Et donc, voilà où on en est. Donc, il s'agit bien de qualifier la Russie comme pays agresseur, malgré toute cette rhétorique victimaire et cette tentative d'inverser le statut d'agresseur en statut d'agressé de la part de Poutine. Mais évidemment, c'est le moins qu'il puisse faire, sachant que son offensive sur Kiev a été un échec. Il comptait prendre la capitale en trois jours, trois ans après, toujours pas conquise. Il s'agit d'un grignotage, comme on disait tout à l'heure, qui est très coûteux, encore une fois. Donc, oui, ce gel des intérêts est une option. Elle est tout à fait légitime et je pense qu'elle doit être dupliquée dans d'autres pays.
Un mot, il me reste une minute à la Lazareva. Vous voyez la paix pour bientôt, vous?
Si on a les vraies garanties, pour bientôt, je ne sais pas, mais je pense qu'il est possible, mais c'est toujours la question des garanties. On a discuté tout à l'heure avec le général. C'est là qui peut nous aider à imaginer la vie vraiment stable et sans être sous menace quotidien de retour des bombardements sauvages qu'on vit depuis trois ans.
Donc les garanties, c'est vraiment là-dessus qu'il faut discuter.
Tout à fait.
Vous êtes d'accord, monsieur l'ambassadeur?
C'est clair.
Ça restera la condition de la paix.
Oui.
C'est garanti.
Absolument. Et que Trump descende de son nuage. Bienvenue sur la planète Terre, c'est ça qu'il faut.
Merci Général Yakovlev d'avoir été avec nous, Jean-Maurice Ripert, à la Lazareva. Merci à vous Olivier Weber d'avoir participé à l'émission. Merci à vous tous d'avoir suivi, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux également en podcast et je vous dis à demain.